Vous écoutez
RMC. 5-7, le Morning RMC.
Et à 5h, c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, ce très gros incendie dans les Pyrénées-Orientales.
Un feu qui a parcouru 4500 hectares, 10 000 personnes évacuées. La troisième étape du Tour de France adaptée aux flammes. Il n'y aura pas de public dans les 40 derniers kilomètres. La canicule qui s'installe à nouveau, Géraldine vient de le dire, la troisième en trois mois. Les destinations de montagne font un carton, c'est une confirmation ce matin. Et puis la Coupe du Monde de foot, les dernières minutes en ce moment entre le Mexique et l'Angleterre. Les Anglais mènent 3-2.
10 000 personnes ont donc été évacuées ces dernières heures à cause du feu dans les Pyrénées-Orientales.
Oui, c'est le premier très gros feu de l'été. 4500 hectares de végétation donc parcourus par les flammes depuis samedi soir dans le secteur de Trévillac, à l'ouest de Perpignan, attisé par le vent, la sécheresse et la chaleur. La préfecture parle d'un feu gigantesque. Alors notre envoyé spécial Rachel Sadodine confirme à Y-sur-Tête précisément où les habitants ont été évacués.
Au-dessus de nos têtes, un balai constant d'hélicoptères et d'avions bombardiers d'eau. La fumée envahit le centre-ville, l'air irrespirable pique les yeux de Lina, déjà en larmes.
Ils ont dégagé tout le monde là-bas, la gendarme. Sortez, il faut sortir de la maison, parce que là-bas, la maison, elle brûle.
Sortie de chez elle à la hâte, avec seulement un sac à main, Lina peine à ravaler ses sanglots.
Il ne laisse pas rentrer. Il dit qu'il faut prendre des bus qui sont là. Je pars pas d'ici. C'est ma maison là, je parle pas d'ici.
Une dizaine de bus arrivent pour évacuer les habitants en panique.
Je vais pas aller à Perpignan, moi et les chiens, faut pas les laisser.
Aude habite Y-sur-Tête depuis 26 ans. Elle décrit une scène apocalyptique du jamais vu.
Ça brûlait juste à côté, du coup ça pète, il y a une voiture qui brûle et ils nous ont demandé d'évacuer.
Vous voyez les flammes depuis chez vous?
Ah oui, moi je les ai vues, ouais. C'est impressionnant, l'odeur c'est insupportable. Attendez.
C'est une ambulance qui arrive pour prendre en charge une vieille femme juste à côté de nous.
Ça va aller madame?
Jusqu'ici retranchés dans la salle municipale, les habitants sont pressés d'évacuer la commune. Masque sur le nez, ceux qu'ils peuvent rejoignent leur voiture pour être accueillis chez des proches. Les autres trouveront refuge dans plusieurs gymnases de la région.
Alors le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, parlait de 6 feux critiques en début de soirée avant que d'autres ne se déclenchent, dans l'Hérault et l'Aude notamment. Celui du Gard qui a brûlé 540 hectares de végétation à Lédenon est fixé ce matin. Il y a 7 départements du Sud-Est toujours en alerte maximale pour ces feux de forêt. Ce feu tient dans les Pyrénées-Orientales qui aura une incidence aujourd'hui sur la troisième étape du Tour de France entre Granollers au nord de Barcelone et les Angles côté français, puisque toute la partie française du tracé va se faire sans public, Romain Asselin.
À incendie exceptionnel, mesure exceptionnelle. Pas d'interdiction formelle, mais la préfecture et l'organisation du Tour invitent le public à ne pas se rendre aux abords du parcours, ni même sur le site d'arrivée de la première étape de montagne de cette édition 2026. Caravane publicitaire à l'arrêt sur le sol français. Seuls les coureurs et les véhicules indispensables à l'organisation du Tour pourront rallier les Angles. Une arrivée située à 70 km des lieux de l'incendie, des feux de forêt difficiles à maîtriser, attisés par les flammes et les fortes chaleurs. La préfecture des Pyrénées-Orientales évoque une lutte acharnée, d'où de possibles restrictions supplémentaires d'ici le départ de cette troisième étape prévue au nord de Barcelone à 12h10.
Et c'est le Mexicain Isaac Del Toro qui a remporté la deuxième étape hier à Barcelone, offerte sur un plateau vraiment par son coéquipier slovène Tadej Pogačar, qui a donné l'impression de lever le pied dans la montée finale pour laisser gagner donc Isaac Del Toro.
Et si vous êtes dans les Pyrénées-Orientales, vous nous écrivez évidemment sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Vous pouvez aussi nous envoyer des photos de ce que vous voyez et vous composez le 32 16. Vous êtes les bienvenus. Alors en plus des incendies, il y a la canicule qui s'installe à nouveau sur le pays, Quentin.
16 départements, oui, en alerte orange, l'ouest du pays et les départements près de la Méditerranée. Les 40 degrés ont déjà été atteint hier. C'est la troisième vague de canicule en trois mois et en pleine période, surtout de vacances scolaires. Si bien que les destinations dites plus fraîches attirent les foules. La preuve est même la confirmation avec Gabriel Laprade.
Au milieu des virages en épingle du Lioran dans le Massif central, Marie-Raymond loue 16 logements dont un chalet en pierre et en bois. Elle constate un vrai pic des réservations dès que les températures augmentent.
On a énormément de gens, par exemple de Montpellier, qui sont en ville et qui remontent, qui nous appellent au dernier moment pour savoir si ils peuvent venir passer 3-4 jours au frais. Même s'il fait très chaud, on a toujours de l'air. Et si on monte au sommet du plan du Cantal, qui est à presque 1900 mètres, là on a quand même toujours de l'air.
Même écho dans les Alpes, sur les hauteurs d'Isola 2000. Plus de touristes, notamment en raison de la canicule, et cela profite à tous les secteurs d'activité. Virginie Tumortiki est directrice de l'Office de tourisme.
Que ce soit les hôtels qui sont très très remplis ce week-end, les terrasses des restaurants, les activités comme les loueurs de vélos, en tout début de saison, c'est pas tout le temps comme ça, donc ça nous montre bien qu'il y a une affluence plus importante que d'habitude.
Une saison estivale qui démarre donc sur les chapeaux de roue, alors que le pic d'affluence à Isola 2000 est normalement atteint autour du 14 juillet.
C'est l'information de la nuit, c'est un véritable coup de tonnerre. Cédric Jubilard qui reconnaît sa culpabilité dans la disparition de sa femme Delphine Jubilard en 2020 dans le Tarn. Le journal La Dépêche écrit ce matin et bien que Cédric Jubilard a remis une lettre manuscrite ces dernières semaines à un de ses avocats dans laquelle il reconnaît formellement sa responsabilité à 2 mois du procès en appel qui est censé se tenir dans cette affaire et alors qu'il niait catégoriquement les faits jusque-là.
Il est 5h05 sur RMC. Nous sommes à la veille du jugement au procès en appel des assistants parlementaires européens du Front National.
Oui, autrement dit, c'est demain que Marine Le Pen va savoir si elle peut ou pas se présenter à l'élection présidentielle l'année prochaine. En attendant, eh bien, le RN se réunissait ce week-end à Liévin avec l'envie de savoir, nous dit Sonia Gobry sur place pour RMC.
Le sourire est là, mais Valérie camoufle son stress.
Ça approche, hein. On est
et c'est aussi le brouillard dans la tête de Liliane et Patricia.
C'est compliqué à répondre. On est inquiète quand même.
J'espère en même temps, parce que je voudrais vraiment qu'elle passe, qu'elle puisse se présenter.
Ils le disent du bout des lèvres, mais chez ces militants du Rassemblement National, l'espoir d'une candidature de Marine Le Pen en 2027 est très mince.
Ça passera pas, non?
Malheureusement, je ne suis pas très optimiste. Tout est fait pour.
Si les cadres du RN adoptent un ton plus mesuré et évitent maintenant d'attaquer frontalement les juges, les militants, eux, crient toujours au complot.
Ça, c'est clair. Je pense pas que la justice soit totalement impartiale en France. Donc c'est quasiment joué, bien sûr.
Ouais, c'est un complot, pour pas qu'elle puisse se passer.
Mais je sais que le Rassemblement National sera rebondir.
Parce qu'il y a le plan B pour Bardella.
C'est pareil, on est une famille, si elle était toute seule, on n'avait rien derrière. Mais heureusement qu'il est là pour tous les gens du RN. Si Marine, malheureusement, elle ne pourra pas passer, ça sera Jordan, pour tout le monde, c'est comme ça.
Ça sera Jordan, elle sera derrière lui.
Marine Le Pen l'a promis, elle ne s'effacera pas. Le RN mènera cette campagne en binôme, même si elle doit passer la main à Jordan Bardella.
Alors le sujet était dans toutes les têtes ce week-end. Édouard Philippe, qui lançait sa campagne à Paris, a critiqué le en même temps du RN. Jean-Luc Mélenchon lui a assuré qu'il était persuadé de pouvoir éliminer le RN au second tour de la présidentielle.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et c'est un match complètement fou qu'on a vécu cette nuit entre l'Angleterre et le Mexique.
Et qui vient de se terminer à Mexico par la victoire de l'Angleterre, Edgar Grollo.
Oui, quel match fou des deux côtés. Un pénalty de chaque côté, un carton rouge aussi pour Kwanzaa, le défenseur anglais. Et finalement, ce sont les Anglais qui s'imposent en infériorité numérique. 3-2, un doublé de Bellingham, un but de Kane. Côté anglais, ça continue pour les Three Lions, mais pour les Mexicains, évidemment, c'est une déception immense pour eux à domicile, devant leur public, dans la capitale Mexico, dans ce stade mythique, le stade Azteca. L'ambiance était incroyable. Et évidemment, elle est redescendue d'un cran d'ici depuis quelques minutes.
3-2, donc cette victoire et qualification des Anglais pour les quarts de finale. Alors la sensation de la soirée, c'est l'élimination du Brésil qui a été battu 2-1 par la Norvège avec un doublé de Erling Haaland. Le pénalty de Neymar n'a rien changé en fin de match pour les Brésiliens. Et le mondial qui est secoué aussi, tiens, ça va faire causer. Par ce scandale à la veille du match entre les États-Unis et la Belgique, la FIFA a décidé de blanchir l'attaquant américain Folarin Balogun, qui avait pourtant reçu un carton rouge au match précédent. Sous la pression de Donald Trump, qui a passé un coup de fil au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour lui demander de réexaminer la suspension du joueur, la Belgique fait part de sa stupéfaction et le sélectionneur des Diables Rouges, Rudy Garcia, parle d'un 1er avril.
On va en reparler dans le mondial de Virginie tout à l'heure. Étonnant, hein, quand même, que étonnante décision, cela dit, de voir le président Trump influer autant, si c'était le cas. Ça vous fait peut-être réagir, comme les matchs de la nuit, l'élimination du Brésil, la qualification des Anglais. Eh bien, vous connaissez le chemin, vous composez le 32-16 ce matin. Merci, Quentin.